Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Bilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous, saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant de commencer ce cours, je voudrais vous rappeler que j'ai organisé pour l'année 2021 cinq retraites. On va voir dans quelle mesure on pourra les prêcher parce que ce coronavirus, vrai ou supposé, nous fait bien des surprises, nous donne bien des surprises. Je vous rappelle quand même qu'il y aura cinq retraites. Une retraite pour la Semaine Sainte, j'ai encore des places pour celle-là aussi, du 29 mars au 4 avril, puis une retraite de 5 jours. Première retraite, c'est une retraite de 6 jours pour la Semaine Sainte, puis du 26 avril au 1er mai, du 7 juin au 12 juin. Du 13 septembre au 18 septembre, du 18 octobre au 23 octobre. J'espère que malgré les circonstances et la tyrannie médicale que nous supportons tous, nous pourrons arriver à remplir ces retraites. Que la volonté du bon Dieu se fasse. Donc nous en sommes dans Saint Luc au chapitre 11, verset 27. Sur le polycopier qui contient les chapitres 11 à 16, en parlant 11 à 15, de Saint-Luc à la page 6, en haut de la page. Versets 27 et 28 du chapitre 11, donc. Il arriva, tandis que Jésus disait ces choses, qu'une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit « Heureux le sein qui vous a porté, les mamelles qui vous ont allaité ». Mais il dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». D'après la tradition, cette femme qui a élevé la voix en disant cette marque, donnant cette marque de respect extraordinaire à l'égard de la Très Sainte Vierge Marie, le sein qui vous a porté, les mamelles qui vous ont allaité, c'est la Très Sainte Vierge Marie, c'est d'elle dont il est parlé là. La tradition nous dit que c'était Sainte Marcella. Sainte Marcella était une servante de Sainte Marthe. Selon certains pères, elle était de race noire. On ne sait pas très bien d'où elle venait. En tout cas, c'était une servante de Sainte Marthe et avec Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine et Saint Lazare. Donc, elle fut placée dans une barque sans voile ni rame. Et ce chargement vivant fut conduit par la Providence de Dieu jusqu'au rivage de Marseille, donc au Sainte-Marie de la Mer. Donc, c'est une des personnes qui ont été choisis par Dieu pour venir apporter la foi en France. La France a eu ce privilège extraordinaire de recevoir la visite de l'Évangile dès le début, puisque là nous sommes peu après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, donc encore dans la première moitié du premier siècle, sud de la France avec les Saintes Femmes, avec Saint Lazare aussi, qui va devenir le premier évêque de Marseille. Et au nord, ce fut un disciple de Saint Paul, un peu plus tard, Saint Denis, qui est venu apporter la foi au nord de la France. Et en même temps, nous avons toute cette ribambelle de saints extraordinaires qui vont venir apporter la foi dans le monde, dans toute la France. On a eu beaucoup de chance de ce côté-là. Alors, cette phrase, il faut bien la comprendre, qu'a prononcée Sainte Marcella. Cette femme prononce bénie non seulement celle qui a été trouvée digne de concevoir le Verbe de Dieu, Notre-Dame, mais encore tous ceux qui ont par leur foi désiré spirituellement concevoir le même Verbe, le nourrir par leurs bonnes œuvres, tant dans leur cœur que dans celui de leur prochain. Donc, ce n'est pas simplement au sens strict qu'il faut interpréter cette phrase. Évidemment, là, c'est la Très Sainte Vierge Marie, c'est la Très Sainte Vierge Marie qui l'a parlé, mais le sein qui vous a porté, les mamelles qui vous ont allaité, représentent aussi chaque âme qui vit dans la vertu de charité. La belle interprétation des Pères de l'Église. Le sein qui vous a porté, les mamelles qui vous ont allaité, représentent tous ceux qui ont ouvert leur âme à la présence divine par la vertu de charité. C'est ce qu'on appelle les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce ne sont pas des simples actions physiques. La bonne œuvre, c'est l'œuvre faite par amour de Dieu par une âme en état de grâce. Rappelez-vous le témoignage de Saint Paul, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire si je ne suis pas en état de grâce, ben tout ce que je fais, c'est comme une cloche qui retentit au loin, le son s'éloigne et puis il ne reste plus rien. Donc, posons-nous cette question, est-ce que moi aussi, par la vertu de charité, je porte notre Seigneur Jésus-Christ en moi? De même que la Très Sainte Vierge Marie a donné naissance à notre Seigneur Jésus-Christ, a fourni à notre Seigneur Jésus-Christ son humanité souffrante, de la même façon, si je vis en état de grâce, et si je prouve mon état de grâce par les bonnes œuvres que je répands autour de moi, par ce parfum qui doit être celui du catholique, eh bien moi aussi, je deviens un porte-Christ. Un porte-Christ comme la Très Sainte Vierge Marie. Hein? D'une certaine façon, une espèce d'allégorie, si vous voulez, de même que la Très Sainte Vierge Marie est mère de Dieu, moi aussi, j'ai une relation littéralement de paternité ou de maternité avec notre Seigneur Jésus-Christ si je vis en état de grâce. Donc, par cette réponse, dit Saint Jean Chrysostome, le Christ, bien sûr, ne désavoue pas sa mère, mais montre que sa naissance ne lui aurait servi de rien si elle n'avait pas été féconde en œuvre et par sa foi. Les œuvres, c'est la charité. Donc, la foi illuminée par la charité va transfigurer l'âme. Donc, une foi sans la charité, ça ne vaut rien. C'est une foi morte, une foi moribonde. Au soir de notre vie, nous ne serons pas jugés par notre foi, nous serons jugés par la vertu de charité. C'est pas la foi qui compte. Il y a des tas de gens qui se prétendent catholiques, mais qui, par leur façon de vivre, montrent qu'ils ne sont rien du tout. Un exemple qui me vient à la tête là aujourd'hui, c'est tout simplement ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Vous avez Joe Biden qui. J'enregistre ce cours combien aujourd'hui? Le 13 janvier. Joe Biden se présente comme catholique. Et il est pour l'avortement, pour les mouvements LGBT, pour toutes ces horreurs. Donc encore une fois, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, et qui va posséder le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est exactement ce que dit sous une autre forme notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux celui qui écoute la parole et qui la garde, qui la met en pratique, qui ne se contente pas de répéter Seigneur, Seigneur. Il y a des gens qui répètent comme ça le nom de Dieu, qui se prétendent catholiques, mais on n'est pas catholique parce qu'on dit, on est catholique parce qu'on fait. C'est facile de prétendre avoir la foi catholique et de faire des grands discours sur la foi catholique, mais si je n'ai pas la charité qui prouve justement, qui me permet d'appliquer la foi catholique dans ma vie de tous les jours par les bonnes œuvres, ma foi n'est qu'une hypocrisie. Donc, la fécondité, elle est donnée non pas par la foi, mais par la charité. Cependant, attention, la charité, j'ai déjà expliqué ça très souvent, c'est important à comprendre, la charité ne peut pas exister sans la foi. Par contre, l'inverse est vrai. Il y a des millions de personnes qui prétendent avoir la foi, mais qui n'ont pas la charité, donc leur foi est vide, morte, c'est une coque vide, sans amande. Par contre, tous ceux qui ont véritablement la charité ont automatiquement la foi et l'espérance. On ne peut pas avoir la vertu de charité sans la foi et l'espérance. La foi pour croire, l'espérance pour prier et la charité pour aimer Dieu en remplissant ses commandements. Donc on ne peut pas avoir la charité sans l'application dans la vie de tous les jours pour chacun d'entre nous, sans l'application des 10 commandements de Dieu. Donc, celui qui n'a pas l'application des commandements de Dieu, c'est-à-dire qui ne vit pas selon les commandements de Dieu, même s'il prétend avoir la foi et qu'il a l'espérance parce qu'il prie, sa foi vaut rien, sa prière ne vaut rien parce qu'il manque l'essentiel. C'est saint Thomas, j'ai déjà expliqué ça souvent, mais c'est important de comprendre. Saint Thomas qui dit qu'une foi qui n'est pas vivifiée par la charité, il appelle ça une foi informe. Une foi informe, c'est comme un cadavre. Hein? Un cadavre, si vous voulez, n'est plus formé sur le plan philosophique du terme, dans le sens philosophique du terme. C'est l'âme qui donne la forme du corps. C'est l'âme qui va donner philosophiquement la forme du corps, c'est-à-dire c'est l'âme, cette substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, qui va permettre au corps de vivre. Donc un corps sans âme, c'est comme la foi sans la charité, c'est la même chose. De même qu'un corps sans âme est un corps mort, quand on a perdu son âme, quand l'âme et le corps sont séparés, eh bien on a devant nous un cadavre. De la même façon, la foi sans la charité est une foi morte, c'est un cadavre de vie spirituelle. Et c'est ça le drame. Je pense que le drame de notre temps, c'est la raison pour laquelle la France est devenue un pays de païens, c'est que la plupart des gens qui se disent encore catholiques n'ont plus la charité. N'ont plus la charité. Combien de fois il m'arrive de rencontrer des gens avec lesquels je parle, parce qu'ils me voient en soutane, alors ils parlent un petit peu, et puis quand on essaie de creuser un peu, quand on est seul avec eux, quand on creuse un petit peu, ils vont me dire, bon, ou je suis catholique non pratiquant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la foi mais j'ai pas la charité. Ou quand on leur pose quelques questions un petit peu sur leur façon de vivre, ils vont dire, oh, mais moi je me confesse une fois tous les 10 ans, et puis d'ailleurs je ne me suis pas confessé depuis mon mariage, et puis quand on creuse encore, on se rend compte ben, mais qu'ils vivent tranquillement avec la femme du voisin. Parce qu'ils ont obtenu une annulation de mariage ou autre bêtise de ce genre, et qu'en fin de compte, ils sont mariés avec une épouse qui n'est pas la leur, mais qu'ils ont volé au voisin. Mais à ce moment-là, c'est quoi? C'est la foi sans la charité. C'est celui qui écoute la parole de Dieu, mais qui ne la garde pas. Garder, écouter la parole de Dieu, ça c'est la foi. La garder, c'est la charité. Qu'est-ce qui est plus important? Si j'écoute la parole de Dieu sans la mettre en pratique, j'ai la foi sans la charité, il manque le plus important. Donc Saint Ignace, ici c'est Saint Ignace d'Antioche dont il est parlé, page 6. Ne se pas les copier. Saint Ignace d'Antioche, dans les nombreuses lettres qu'il écrivit à la Très Sainte Vierge Marie, je pense que c'est Saint Ignace d'Antioche. Et en fait, dans les nombreuses lettres qu'il écrivit, je pense que ça veut dire au sujet de la Très Sainte Vierge Marie. Est-ce que Saint Ignace était contemporain de la Très Sainte Vierge? Je ne sais pas. J'ai oublié de vérifier ça. Donc, je viens de vérifier à l'instant même. J'ai oublié de vérifier ça à l'avance. Saint Ignace est peut-être effectivement contemporain de la Très Sainte Vierge Marie parce qu'il est né vers 35, dans 35 en Syrie. Il est mort à Rome, martyr. En l'an, on ne sait pas très bien sa date de la mort, entre 107 et 113, il fut troisième évêque d'Antioche, après Saint-Pierre, qui en fut le premier évêque, Évode, à qui il succéda vers 68. Donc il a pu, Saint Ignace d'Antioche a donc été effectivement contemporain de notre Sainte Vierge Marie, donc il a pu très bien écrire à la Très Sainte Vierge Marie. J'avais mal préparé mon cours là, c'est ma faute, et je ne savais pas que Saint Ignace avait écrit des lettres à la Très Sainte Vierge Marie. Et s'adressait à elle sous le terme de Christophora, c'est-à-dire de porte-Christ. Vous savez que certains pères de l'Église, avec raison, en parlant de la Très Sainte Vierge Marie, bien sûr, ils ne vont pas dire que la Très Sainte Vierge Marie était divine. On n'a absolument pas le droit de dire cela. Ce serait une hérésie énorme de parler de la divinité de la Très Sainte Vierge Marie. Mais la Très Sainte Vierge Marie, disent les pères, touche à la divinité. Donc là, il faut faire un petit peu attention. C'est une remarque que j'ai plusieurs fois entendue de gens qui me disent, même sur l'abbé, on peut parler de la Divine Marie, puisque Saint Louis-Marie Grignion de Montfort en parle en ces termes. C'est vrai que Saint Louis-Marie Grignion de Montfort utilise fréquemment dans ses œuvres le terme, l'expression la Divine Marie. Mais cette expression, en son temps, elle ne veut plus dire la même chose qu'aujourd'hui. Quand on parle de la Divine Marie, aujourd'hui, c'est une phrase très ambiguë, parce cela semblerait dire que la Très Sainte Vierge Marie avait la divinité, ce qui est faux. Lorsque Saint Louis-Marie Grignion de Montfort parle de la Divine Marie, il ne veut absolument pas dire qu'elle est divine, mais qu'elle est mère de Dieu. Donc les termes peuvent avoir des expressions, un changement de sens. Donc actuellement, je pense qu'il serait imprudent pour un prêtre ou un chrétien de parler de la Divine Marie. Donc elle, les pères disent, en parlant d'elle qu'elle touchait à la divinité. C'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention parce que comme elle est médiatrice de toute grâce, on aurait parfois tendance à passer par elle, mais en oubliant qu'elle nous amène à Dieu. On le voit très bien dans toutes les, les oraisons en l'honneur de la Très Sainte Vierge Marie. Dans le missel, lorsque il y a une grande fête de la Très Sainte Vierge Marie, les oraisons ne sont pas adressées directement à la Très Sainte Vierge, mais toujours à Dieu. Prenons l'exemple de la fête de l'Assomption. L'Assomption au 15 août. Voilà une des oraisons de la fête de l'Assomption. Daignez pardonner, Seigneur, les péchés de vos serviteurs. Vous voyez, on s'adresse au Seigneur, on ne s'adresse pas à la Très Sainte Vierge Marie directement. Daignez pardonner, Seigneur, on s'adresse au Seigneur. Faites que dans l'impuissance où nous sommes de vous plaire par nous-mêmes, nous puissions être sauvés par l'intercession de la Très Sainte Vierge, de la Sainte Mère de votre Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on parle à la Très Sainte Vierge, on demande la protection de la Très Sainte Vierge Marie comme médiatrice de toute grâce. Mais ce n'est pas à elle directement qu'on peut demander le salut. Donc même pour les grandes fêtes de la Très Sainte Vierge Marie, on retrouve toujours le fait qu'on s'adresse en fait à notre Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie. On va retrouver à peu près reprendre la fête du 8 décembre, c'est la même chose. Voilà l'oraison pour la fête de l'Immaculée Conception. « Ô Dieu qui, par l'Immaculée Conception de la Vierge, avait préparé à votre Fils une demeure digne de lui. » Voyez, l'oraison s'adresse à Dieu. C'est très important quand on parle avec les protestants, parce qu'un des reproches que les protestants font aux catholiques, c'est justement d'adorer la Très Sainte Vierge Marie. Non, pas du tout. Il n'y a pas une seule oraison qui s'adresse directement à la Très Sainte Vierge Marie, ou directement à un saint. On passe toujours par Dieu, ô Dieu qui par l'Immaculée Conception de la Vierge avait préparé à votre Fils une demeure digne de lui, daignez, comme vous l'avez préservé de toute tâche en prévision de la mort de ce Fils, nous accorder par son intercession de pouvoir pur nous aussi parvenir jusqu'à vous. Vous voyez, on passe toujours par la Très Sainte Vierge Marie. Je peux donner beaucoup, beaucoup d'exemples comme cela. Un autre exemple, c'est la fête du cœur immaculé de Marie. Dieu Tout-Puissant et Éternel qui avait préparé dans le cœur de la Bienheureuse Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit-Saint. Soyez-nous propices et faites que, célébrant dévotement la fête de ce même cœur immaculé, nous puissions vivre selon votre cœur. Vous voyez, la collecte s'adresse directement à Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant qui avait préparé dans le cœur de la Bienheureuse Vierge Marie une demeure digne de vous. Et on va retrouver exactement la même chose. Même dans les fêtes des plus grands saints de l'Église catholique, prenez par exemple la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul le 29 juin. Saint-Pierre, c'est le premier pape. Eh bien, c'est pareil, l'oraison de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul au 29 juin ne s'adresse pas directement à Saint-Pierre et Saint-Paul, mais à Dieu, au Dieu qui avait consacré ce jour par le martyr de vos apôtres Pierre et Paul, donnez à votre Église de suivre en toutes choses les enseignements de ceux par qui la religion a reçu ses commencements. La Sainte Vierge, les grands saints, et tous les saints d'ailleurs, sont des intermédiaires. Donc il faut faire un petit peu attention. C'est ça que j'aime beaucoup, ce terme de Christophora, porte Christ. Elle porte le Christ dans le sens qu'elle est véritablement Mère de Dieu. Je vous l'ai souvent expliqué, c'est la raison pour laquelle, au début de l'histoire de l'Église, les premiers pères avaient presque peur d'utiliser le terme de Mère de Dieu. Ça a été défini, je vous l'ai déjà souvent expliqué, au concile d'Éphèse, par l'intermédiaire de Saint Cyril d'Alexandrie, donc qui a obtenu justement que ce titre soit attribué à la Très Sainte Vierge Marie. Elle est Mère de Dieu, mais elle n'est pas divine, attention. Elle n'est pas divine dans le sens moderne du terme. Elle est divine dans le sens qu'elle a donné la divinité. La divinité est arrivée à nous par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie, dans son union par le mystère de l'incarnation avec l'humanité, qui, elle, vient directement à la Très Sainte Vierge Marie. La Très Sainte Vierge Marie est véritablement mère de la divinité, de l'humanité, elle n'est pas en tant que telle mère de la divinité, dans le sens que c'est de son propre, sa propre nature qui est venue l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais la divinité, la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ ne vient pas de la Très Sainte Vierge Marie. Cependant, la Très Sainte Vierge Marie étant mère d'un enfant qui est une personne humaine, cette personne humaine est aussi en même temps, tout en étant personne humaine, est en même temps deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu le Fils, donc la Très Sainte Vierge Marie est véritablement mère de Dieu. Vous voyez, il faut faire un petit peu attention. Voilà donc la phrase dont le terme utilisé par Saint Ignace d'Antioche, donc qui s'adressait à la Très Sainte Vierge Marie sous le terme de Christophora, c'est-à-dire porte Christ. Il habite en vous et vous en lui. Vous lui avez procuré un vêtement et en retour il vous a revêtu. Il a reçu, c'est magnifique ça, il a reçu de vous le vêtement de sa chair, il vous a couvert de la gloire de sa majesté, vous avez couvert le soleil d'une couverture de nuages et vous êtes tout entouré de cette splendeur. Et c'est à cause de cette union extraordinaire qui a existé entre la Très Sainte Vierge Marie et son divin Fils que la Très Sainte Vierge Marie n'a pas, le bon Dieu n'a pas voulu que sa mère souffre la corruption au tombeau. Et peut-être, ça n'a jamais été défini par l'Église, peut-être qu'elle n'a même pas permis qu'elle puisse souffrir la mort corporelle. L'Église ne s'est jamais prononcée sur ce sujet. Est-ce que la Très Sainte Vierge Marie est vraiment morte ou est-ce qu'elle elle s'est endormie puis est montée au ciel directement? L'Église ne s'est jamais prononcée, donc les deux thèses sont acceptables dans l'Église. Je vous rappelle que les Grecs penchent plutôt pour la dormition de la Très Sainte Vierge Marie. Ce serait endormie, puis elle est montée au ciel directement avec son corps, son âme. Au contraire, l'Église latine penche plus pour la mort de la Très Sainte Vierge Marie, mort physique, donc séparation entre le corps et l'âme, et ensuite le corps et l'âme de la Sainte Vierge sont montés au ciel. D'après certains pères, donc tous les apôtres avaient été miraculeusement amenés par le Saint-Esprit à Jérusalem pour la mort de la Très Sainte Vierge Marie, ou la fin de sa vie au moins. Et elle a pu revoir tous les apôtres, sauf Judas bien entendu, tous les apôtres avant de passer de ce monde à l'autre. D'après une tradition de l'Église latine, ils ont, après sa mort physique, ils auraient placé le corps de la Très Sainte Vierge Marie dans un tombeau. Et le lendemain, lorsqu'ils ont voulu terminer les préparatifs corporels, en l'honneur de cette personne qui avait touché notre Seigneur Jésus-Christ de façon très spéciale, bien, ils ont découvert que le tombeau était devenu vide. Alors, encore une fois, l'Église ne s'est jamais prononcée, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle est vraiment porte-Christ. Alors, si la Très Sainte Vierge Marie porte-Christ, eh bien, c'est un terme que nous pouvons viser, nous aussi, d'une certaine façon. Une âme en état de grâce est un porte-Christ. Et ces phrases magnifiques que Saint Ignace adresse à la Très Sainte Vierge Marie, elles s'adressent aussi à tout catholique qui vit en état de grâce. Entre autres, ces phrases extraordinaires de Saint Ignace d'Antioche s'appliquent à un enfant, par exemple, après son baptême, un bébé après son baptême. Il est difficile d'appliquer ces phrases directement à nous, parce que nous, on est des pauvres gens à cause du péché, des conséquences du péché en nous. Les hommes, on commet tous des péchés. La Très Sainte Vierge Marie n'en a jamais commis parce qu'elle est Immaculée Conception. Mais vous et moi, nous ne sommes pas Immaculée Conception, donc on a des péchés sur la conscience qui ont certes été pardonnés par le sacrement de pénitence, mais nous avons quand même ces conséquences du péché originel en nous. On a les concupiscences que n'avait pas la Très Sainte Vierge Marie, attention. Alors, par contre, pour un bébé qui vient d'être baptisé, il n'a pas encore commis de péché. Le péché originel a été ôté par le baptême. Donc la vertu de charité rayonne en lui sans aucune limite. C'est aussi le cas, par exemple, d'un adulte qui est baptisé dans les secondes qui suivent son baptême. Son âme est rayonnante d'une façon extraordinaire. Et c'est pour cela que les anciens, moi j'aime beaucoup cette coutume, qui est encore suivie dans certaines familles, les familles catholiques qui avaient l'habitude une habitude très sainte, très saine, de faire la prière du matin, la prière du soir à la maison, tous les autres enfants, devant le berceau du nouveau-né. Quand il y a un nouveau-né dans la famille qui vient d'être baptisé, le nouveau-né, c'est vraiment la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut vraiment, pratiquement vraiment dire que quand une maman allaite son bébé qui vient d'être baptisé, eh bien, c'est vraiment presque, on peut presque dire allégoriquement qu'elle tient en elle, dans ses mains, sur ses genoux, pendant qu'elle allaite son enfant, qu'elle tient le Saint-Sacrement. D'une certaine façon, ça peut être dit, bon, évidemment, il faut être un peu prudent dans la façon dont c'est dit, mais c'est la réalité. Et donc, une âme en état de grâce, surtout une âme qui n'a jamais commis le péché, donc qui est encore dans la voie, ce qu'on appelle la voie d'innocence, eh bien, on peut appliquer une âme qui est dans la voie d'innocence, par exemple un bébé qui vient d'être baptisé, ou un adulte qui vient d'être baptisé dans les minutes qui suivent son baptême d'adulte. Donc tous ses péchés anciens ont disparu, les peines temporelles de ses péchés ont également disparu. N'oubliez pas qu'un baptême d'adulte efface toutes les peines temporelles du péché, donc les peines du purgatoire, tout ça a disparu pendant les minutes qui suivent son baptême, avant que malheureusement cet adulte qui est nouvellement baptisé commette son premier péché. Eh bien, on peut lui appliquer ces phrases de saint Ignace d'Antioche. Notre Seigneur habite en vous et vous habitez en lui. Vous lui avez procuré un vêtement et en retour il vous a revêtu. Il a reçu de vous le vêtement de sa chair. Il vous a couvert de la gloire de sa majesté. Vous avez couvert le soleil d'une couverture de nuages et vous êtes tout entouré de cette splendeur. D'où l'importance de la dévotion vers notre Sainte Vierge Marie. Donc devenir la Mère de Dieu, encore des phrases des pères là qui sont splendides, devenir la Mère de Dieu est une grâce et un don gratuit de Dieu, mais un don extérieur qui n'agit pas forcément sur l'âme, mais entendre garder le Verbe de Dieu est une grâce intérieure qui vous rend acceptable devant Dieu. Donc la grandeur de la Très Sainte Vierge Marie vient de sa totale conformité à la volonté divine. Devenir la Mère de Dieu n'entraîne pas absolument le bonheur éternel, mais de garder la parole de Dieu jusqu'à la mort sera récompensé par la promesse certaine de la vie éternelle. Donc, la grandeur de la Très Sainte Vierge Marie ne vient pas directement du fait qu'elle est Mère de Dieu, mais du fait qu'elle a parfaitement su garder la parole de Dieu en son âme. Elle a écouté la parole de Dieu, elle l'a gardée parfaitement, c'est-à-dire qu'elle a vécu en état de charité totale, parfaite, pendant toute sa vie, puisqu'elle n'a jamais commis le moindre péché véniel, étant donné qu'elle était Immaculée Conception. Donc devenir la Mère de Dieu, disent les pères, est une bénédiction pour une vierge seulement, alors que d'entendre et garder la parole de Dieu est un privilège commun à tous les croyants. Donc la Sainte Vierge Marie, elle est Théotokos, elle est porte-Dieu. Hein, Théotokos, c'est... Elle est vraiment Mère de Dieu, porte-Christ, on peut dire porte-Dieu. Elle est comme beaucoup de pères ont comparé la Très Sainte Vierge Marie à un tabernacle, c'est vrai, ou un ciboire. On dit que c'est un ciboire vivant. Tous ces termes utilisés par les pères de l'Église, on peut les mettre sur nos lèvres quand on parle de notre Sainte Vierge Marie. Elle est porte-Christ, elle est porte-Dieu, elle est tabernacle vivant, elle est ciboire. Elle est ciboire, ciboire, ciboire vivant. De la même façon que dans le tabernacle, on couvre le ciboire qui contient les saintes espèces d'un voile. De la même façon, si vous voulez, qu'on met un canopé sur la porte du tabernacle pour montrer que la tabernacle contient vraiment la présence divine quand il y a des hosties consacrées dans ce tabernacle, de même façon qu'on met un pavillon, ce qu'on appelle un pavillon, un voile sur le ciboire consacré dans le tabernacle, de la même façon, eh bien, la Très Sainte Vierge Marie est devenue le tabernacle du Très-Haut, le pavillon, on peut comparer la Très Sainte Vierge Marie à un pavillon de ciboire. Et à tel point que le père de l'Église parle aussi, par exemple, lorsqu'il parle de Saint Joseph qui accompagne notre Sainte Vierge Marie à Bethléem avant la naissance du Christ, eh bien, c'est une procession du Saint-Sacrement sur ce petit âne qui portait notre Sainte Vierge Marie, eh bien, guidée par Saint Joseph, eh bien, c'est une procession du Saint-Sacrement. Lorsque notre Sainte Vierge Marie est allée visiter sa cousine Élisabeth, eh bien, c'est une procession du Saint-Sacrement. Il faut réaliser la grandeur qui est la nôtre quand je suis en état de grâce. Mais malheur à nous si nous avons commettons un péché grave, parce que là, c'est vraiment la profanation de la chose la plus sainte qui puisse être trouvée, à savoir la grâce sanctifiante en nous. La Vierge Marie, ma mère, fut davantage bénie, dit notre Seigneur, d'après les Pères, fut davantage bénie en ayant reconnu ma divinité qu'en m'ayant conçu en son sein. Et c'est une phrase très forte, je répète cette phrase. Notre Seigneur Jésus-Christ qui parle, selon les Pères, la Vierge Marie, ma mère, fut davantage bénie en ayant reconnu ma divinité qu'en m'ayant conçu en son sein. C'est-à-dire, la très sainte Vierge Marie est encore plus grande en ayant parfaitement suivi la volonté de son Fils qu'en ayant donné la nature humaine à son Fils. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Nous, à cause de nos péchés, à cause des conséquences du péché originel, le péché originel en nous, n'oublions pas encore une fois que le baptême, s'il efface le péché originel, n'efface pas les conséquences du péché originel. Tous, nous gardons l'ignorance, la malice, la faiblesse, la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, l'orgueil. Tout ça est en nous, mais pas en la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie n'ayant jamais eu la tâche du péché originel, n'a aucune ignorance, aucune malice, aucune faiblesse, aucune concupiscence. Alors attention, encore une fois, il faut être prudent dans les termes qu'on utilise. Il n'y a pas d'ignorance en tant que blessure du péché originel. Cependant, la très sainte Vierge Marie n'avait pas, contrairement à ce que pensent certains catholiques, n'avait pas la science infuse. Ça, j'ai trop souvent entendu ça, des gens qui disaient la très sainte Vierge Marie a la science infuse. Non. On le voit très bien dans les textes que nous venons de méditer pendant le temps de l'Épiphanie, le temps de Noël. La très sainte Vierge Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, les méditant sans cesse. On voit très bien, c'est dans l'évangile de la fête de la Sainte Famille. Il y a là encore une fois quelque chose d'important. Je vais vous trouver le texte dans la fête de la Sainte Famille. Voilà. Il y a un évangile qui est important pour expliquer justement que la très sainte Vierge Marie n'avait pas la connaissance parfaite de toutes les vérités divines. Elle n'avait pas la science infuse. Vous savez qu'à 12 ans, notre Seigneur Jésus-Christ monta avec son père adoptif, Saint Joseph, et sa mère, la très sainte Vierge Marie, à Jérusalem selon la coutume de la fête. Je vous lis le texte parce que c'est important de comprendre cela. Les jours de la fête étant passés, lorsqu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Donc c'est Saint Luc au chapitre 2, donc l'évangile de la fête de la Sainte Famille. Pensant qu'il était avec eux, avec ceux de leur compagnie, ils marchèrent durant un jour et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem et à sa recherche. Et ce ne fut qu'après 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de la sagesse de ses réponses. Voyant cela, ils furent étonnés. Sa mère, Sainte Vierge Marie, lui dit, « Mon fils, pourquoi avez-vous agi ainsi avec nous? Voici que votre père et moi, nous vous cherchons tout affligés. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon père? » Et voilà cette phrase, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ça, c'est une preuve formelle que la très sainte Vierge Marie, parce que ce « il » au pluriel, c'est pas simplement Saint-Joseph, c'est aussi la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie et Saint-Joseph ne comprirent pas ce qu'il leur disait parce qu'ils n'avaient pas la science infuse. La très sainte Vierge Marie n'avait pas la science infuse. Donc il est faux de dire, que j'ai entendu trop souvent, à part de catholiques, que la très sainte Vierge Marie avait la science infuse. Elle n'avait pas la science infuse. Mais par contre, elle avait de façon extraordinaire la charité. C'est ça qui est magnifique dans la vie de la très sainte Vierge Marie. C'est que, imaginez ce que devait être la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans le cœur immaculé de Marie, d'être dans un cœur qui refusait jamais rien à Dieu, qui n'était jamais abîmé ou sali par le moindre péché véniel. Avec nous, c'est ça le problème, c'est qu'on a beau se confesser très souvent, il reste toujours des scories en quelque sorte dans notre âme, parce que la confession enlève le péché, mais n'enlève pas forcément, totalement, les peines temporelles dues au péché. peux en enlever une partie, si je me confesse avec un très grand degré de charité, je peux enlever une grande partie des peines du purgatoire, et même si je gagne une indulgence plénière, par exemple, je peux enlever toutes les peines du purgatoire attachées au péché passé. Mais, même le plus grand saint, même le juste pêche 7 fois par jour. Pour bien nous faire comprendre que même le plus grand saint a des scories dans son âme que n'avait pas la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie, elle, est restée de façon extraordinaire, justement, en union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc j'insiste sur cette phrase des Pères, que vous avez en page 6 sur le polycopier. La Vierge Marie fut davantage bénie en ayant reconnu la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qu'en ayant conçu la divinité en son sein. En ayant conçu notre Seigneur Jésus-Christ directement en son sein. Donc sans connaître les raisons divines, elle fut obéissante à sa parole. Mais sans cet abandon à la volonté divine, elle n'aurait pas été trouvée digne de devenir la mère de son Fils. Et là, voilà la phrase clé, à mon avis, qui est extraordinaire. La très sainte Vierge Marie fut davantage bénie dans sa foi que dans sa conception de l'enfant Dieu. Ça semble assez étrange, et c'est pourtant ce qu'enseignent les pères. C'est la foi. Attention, quand on dit, les pères disent, la sainte Vierge fut davantage bénie dans sa foi que dans sa conception de l'enfant Dieu, il est évident que là, ils parlent de la foi théologale de la très sainte Vierge Marie, foi formée par la vertu de charité. Ce qui était extraordinaire, ce n'est pas simplement la foi de la très sainte Vierge Marie, c'est sa charité. La très sainte Vierge Marie est immense à cause de sa charité unie à cette foi. Il est évident que, humainement parlant, il y a bien des choses au début de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui devaient être difficiles à comprendre. Hein, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans le froid de la grotte de Bethléem, difficile à comprendre humainement parlant. Le fait qu'au bout de quelques jours, tout de suite, il faut partir chez les païens d'Égypte parce que le roi Hérode cherchait à tuer l'enfant Jésus, c'est des choses qui étaient difficilement compréhensibles. Et pourtant, notre Sainte Vierge Marie, même si elle n'a pas compris, elle avait cet abandon à la volonté divine et elle a dit en son cœur tout de suite « Que votre volonté soit faite. » Vous allez me dire, mais on trouve aussi ce même abandon à la volonté divine dans Saint Joseph. Attention, c'est vrai, mais Saint Joseph n'était pas Immaculée Conception. Donc il y avait une pureté dans l'âme de la très sainte Vierge Marie qui ne pouvait pas exister dans l'âme de Saint Joseph parce que Saint Joseph avait un cœur très pur, bien sûr, mais n'était pas Immaculée Conception. Alors que la sainte Vierge Marie a été conçue sans le péché originel. Saint Jean-Baptiste a été conçu avec le péché originel, puis purifié dans le sein de sa mère, Sainte Élisabeth, ce qui n'est pas le cas de la Sainte Vierge Marie, qui, elle, a été conçue, elle, au moment de sa conception même, dans le sein de sa mère, Sainte Anne, elle a déjà été conçue sans le péché originel. Il y a des hérétiques qui pensent que Saint Joseph était Immaculée Conception, c'est inacceptable, on ne peut pas accepter ça. Saint Joseph, c'est pareil, a été conçu dans le péché originel. Bon, il est évident qu'il a vécu avant l'institution du baptême par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Saint Joseph vivait en état de grâce, c'est absolument évident, puisqu'il a été purifié du péché originel justement par sa charité extraordinaire. La charité ne peut pas exister dans une âme qui est imprégné par le péché originel. C'est pour ça que le péché originel étant détruit par le baptême, c'est la charité qui peut exploser dans cet homme. Alors, j'insiste sur cette dernière phrase de ce commentaire, page 6, là, verset 28. La Sainte Vierge fut davantage bénie dans sa foi que dans sa conception de l'enfant Dieu. Oui. La première chose que le bon Dieu va nous demander le jour de notre mort, c'est de nous demander si nous sommes en état de grâce. Et si je ne suis pas en état de grâce, ben tout ce que j'ai fait ne vaut plus rien, parce que j'ai perdu à ce moment-là tous mes mérites. Quelqu'un n'est pas saint parce qu'il fait des miracles. Quelqu'un est saint parce qu'il garde en lui la vertu de charité. C'est ça qu'on voit dans les saints. Les saints ont pratiqué de façon héroïque la vertu de charité. Ils ont pratiqué les différentes vertus qui découlent de la charité de façon héroïque. Donc la grandeur des saints consiste non pas en leur foi, mais en leur degré de charité. La foi sans la charité est une foi morte. Donc continuons avec les versets 29 à 31 de Saint-Luc au chapitre 11, page 6. Comme les foules accouraient, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération méchante, elle demande un signe, il ne lui sera pas donné de signe si ce n'est le signe du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme pour cette génération. La reine du Midi se lèvera lors du jugement contre les hommes de cette génération et les condamnera, car elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici qu'il y a plus que Salomon ici. » Donc, de même que Jonas est resté 3 jours dans le ventre du cétacé qu'il a avalé, de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ est resté 3 jours dans le sein de la terre. Cette prophétie de Jonas s'applique évidemment à l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ qui reste dans le tombeau du vendredi saint jusqu'au troisième jour, le dimanche de Pâques. Un signe est une chose ouverte à la vue de tous, mais qui contient la manifestation de quelque chose de caché, disent les pères, comme le signe de Jonas représentait la descente aux enfers, l'ascension de Christ et la résurrection des morts. Vous voyez donc Jonas qui est rejeté sur le rivage après avoir été sauvé de la tempête par ce cétacé mystérieux, cette baleine. Le texte sacré utilise un terme générique, le poisson. En fait, c'est, strictement parlant, c'est pas un poisson. La baleine n'est pas un poisson, mais un mammifère, comme vous le savez mieux que moi. Et donc, quel est exactement le poisson ou le cétacé qui a avalé Jonas, on ne sait pas. Certains pères pensent que c'était un cachalot. Bon, là, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, une baleine, un cachalot. En tout cas, un poisson suffisamment grand pour pouvoir avaler. Et Jonas, donc, il n'a pas été avalé par une sardine, c'est absolument évident. Hein, il faut du bon sens. C'est un miracle. Donc, nous devons croire qu'un animal marin a avalé Jonas, l'a conservé dans son estomac pendant 3 jours. Miraculeusement, Jonas a survécu et il a été rejeté au bout de 3 jours par le cétacé sur le rivage. Bon, ça représente évidemment la mise au tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça représente aussi, disent les pères de l'Église, la descente aux enfers. Descente aux enfers, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui descend aux enfers, puisque après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une séparation entre le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Le corps va rester dans le tombeau pendant 3 jours, du vendredi saint au matin de Pâques, uni à la divinité. Et l'âme, toujours unie à la divinité, va descendre dans les enfers. Attention, ici on parle du paradis, de cette salle d'attente réservée à tous les justes de l'Ancien Testament qui attendaient depuis plusieurs milliers d'années entre Adam et Ève qui vraisemblablement étaient dans ce lieu d'après la tradition de l'Église. Entre Adam et Ève et l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est passé à peu près 5000 ans, donc il y avait plusieurs milliers d'années d'attente pour certains patriarches. Et notre Seigneur Jésus-Christ, par sa descente aux enfers, a littéralement transformé ce lieu en paradis. Donc les pères disent que ces 3 jours dans le ventre du poisson, du cétacé, représentent aussi l'ascension du Christ et la résurrection des morts. Donc on entend d'abord la voix puissante de l'avertissement, puis la déclaration de miséricorde. Car par l'exemple des Ninivites, la punition est dénoncée, le remède promis. Ainsi, les Juifs eux-mêmes ne peuvent désespérer de leur pardon s'ils se repentent. C'est-à-dire, de la même façon que les Ninivites qui vivaient dans le péché ont écouté la prédication de Jonas et se sont convertis, à cause de cette conversion, Dieu n'a pas détruit Ninive, puisque Jonas se promenait dans la rue de Ninive, sous l'ordre de Dieu, en répétant toujours la même phrase, « Encore 3 jours et Ninive sera détruite ». Une grosse cité de plusieurs dizaines de milliers d'habitants à l'époque. Et Ninive n'a pas été détruite à cause de la conversion des Ninivites. De la même façon, les catholiques qui vivent dans le péché mortel peuvent se convertir et les Juifs eux-mêmes, disent les pères, ne doivent pas désespérer de leur pardon s'ils se repentent. Et de même que Dieu a pardonné aux Ninivites et n'a pas détruit la ville, de la même façon, Dieu pardonnera aux Juifs qui se convertissent et qui reconnaissent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Passons à la page 7 du polycopié. Donc, tout en, ici c'est un texte de saint Ambroise. Tout en condamnant le peuple juif, le Christ exprime fortement le mystère de l'Église, représenté par la reine du Sud. C'est la reine de Midi. Le texte au verset 31, la reine de Midi se lèvera lors du jugement contre les hommes de cette génération et les condamnera. Car elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici qu'il y a plus que Salomon ici. Ici, le texte fait allusion à la reine d'Éthiopie, qui est devenue, nous dit la tradition de l'Église, une des femmes de Salomon. À l'époque, on a dû accepter la polygamie. Et la tradition nous dit que cette reine du Midi, c'était la reine d'Éthiopie, va devenir une des femmes de Salomon. Alors voilà donc le texte des pères. Le royaume de cette reine est indivisé, car provenant de nations différentes et distantes, mais toutes unies en un seul corps. C'est le symbole de l'Église. L'Église qui va contenir en son sein des âmes qui viennent de tous les coins de la création, mais qui sont unies dans une même foi alimentée par une même charité. Un autre texte ici, en haut de la page 7, de Saint Grégoire de Nicée. Cette femme était reine d'Éthiopie, donc cette reine du Midi, reine du Sud, était reine d'Éthiopie, pays fort éloigné. Au début, l'Église des gentils était dans les ténèbres, loin de la connaissance de Dieu. Mais quand le Christ, prince de la paix, apparut, les Juifs étaient encore dans les ténèbres. Vint alors les gentils qui offrirent au Christ l'encens de la piété, l'or de la connaissance divine et les pierres précieuses, c'est-à-dire l'obéissance à ses commandements. Et les gentils dont il est parlé, ici les pères de l'Église, le père de l'Église parle, c'est d'abord les rois mages qui offrent au Christ l'or, l'encens et la myrrhe. L'or de la sagesse, l'or de la reconnaissance de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, l'encens de la prière, la piété donc, reconnaissance de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et la myrrhe de la vertu de pénitence, et la myrrhe qui reconnaît l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous aussi, il faut, à demande de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous offrions, nous aussi, l'or, l'encens, la myrrhe. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois dans les sermons que j'ai donnés sur le temps de l'Épiphanie. Le bon Dieu exige de nous les trois dons, pas simplement l'or, l'encens et la myrrhe, parce que les trois dons sont unis. Il n'est pas possible que je puisse donner à Dieu un ou deux de ces dons si je retiens le troisième. C'est-à-dire, si je veux donner la myrrhe et l'encens à notre Seigneur Jésus-Christ, mais je garde la royauté sociale pour moi, parce que je refuse de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme roi, parce que je refuse de lui donner l'or, eh bien, refusant de lui donner l'or, je reprends pour moi, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, donc l'encens et l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que je refuse le mystère de la rédemption par la mort douloureuse de notre Seigneur. Les trois dons sont unis. Je ne peux pas donner à notre Seigneur Jésus-Christ l'or sans donner en même temps l'encens et la myrrhe. Je ne peux pas donner l'encens sans donner l'or et la myrrhe. Je ne peux pas donner la myrrhe sans donner l'or et l'encens. Vous voyez, les trois dons sont unis. Donc, il nous faut reconnaître en notre Seigneur Jésus-Christ d'abord un roi, parce qu'il c'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si je dors, si je donne que l'encens, je reconnais la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, mais je la reconnais pas ici-bas. Donc, l'encens indique la divinité. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi au ciel, c'est absolument évident. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est aussi roi ici-bas sur la terre. C'est bien ce qui est nié aujourd'hui par toute l'Église de Vatican II, qui ne veulent plus entendre parler du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est ici-bas et manifesté par le fait que je donne à l'enfant Jésus l'or. Le fait qu'il est Dieu au ciel, qu'il a un règne au ciel, ça c'est l'encens. Il faut tout donner. C'est pour cela que les pères parlent de la connaissance divine et l'obéissance à ses commandements qui sont donnés, qui sont représentés par ses dons, l'or de la connaissance de divine et l'obéissance à ses commandements qui est représentée par l'ensemble des dons que je fais à notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les soirs, tous les matins, il faut, dans la prière du matin, dire à notre Seigneur Jésus-Christ, je vous offre tous les dons de la journée. Donc à chaque fois que j'oublie ma volonté propre pour suivre la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, j'offre à notre Seigneur Jésus-Christ un cadeau. et ces cadeaux ont une importance énorme. Donc les Ninivites, disent les pères, étaient des barbares qui n'avaient jamais reçu la parole de Dieu, alors que les Juifs jouissaient de l'enseignement prophétique. Les Ninivites reçurent un serviteur, Jonas, mais les Juifs, le maître, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le premier prêcha la destruction, le second le royaume des cieux. C'est pour ça que certains pères font remarquer que les Ninivites ont beaucoup plus de mérite parce qu'ils ont cru à la parole de Jonas alors qu'ils étaient des païens. Au contraire, les Juifs, qui ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ, n'ont pas d'excuse parce que ces Juifs connaissaient tous ces prophéties d'Ancien Testament qui annonçaient l'arrivée du Messie et qui avaient donné l'intégralité des signes avant-coureurs du Messie. Lorsque David disait 1000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont percé mes mains et mes pieds en parlant du Messie, eh bien les Juifs ont pu voir notre Seigneur Jésus-Christ crucifié sur la croix avec ses mains et ses pieds percés. Jonas a prêché la destruction de Ninive et notre Seigneur Jésus-Christ est venu prêcher le royaume des cieux. Mais la destruction de Ninive annoncée par Jonas va préparer la conversion du peuple des Ninivites qui vont donc atteindre le royaume des cieux ainsi. Alors, autre texte, cette fois-ci de saint Ambroise, l'évêque de Milan. Donc, mystérieusement, l'Église consiste en deux choses. Soit l'ignorance du péché qui se réfère principalement à cette reine de Saba, cette reine du Midi, cette reine du Sud. Donc la sagesse dans ce cas-là protège contre l'offense. Ou la cessation du péché, ce qui rapporte au Ninivite repentant, la repentance efface l'offense. Donc il y a deux façons d'aller au ciel. On va au ciel soit par la voie d'innocence, c'est l'ignorance du péché, c'est la sagesse qui protège contre l'offense. C'est le cas des enfants morts après le baptême. Quand un bébé meurt juste après son baptême, il a droit au ciel. Ça, c'est la voie d'innocence. Lorsque j'ai le malheur de commettre mon premier péché, dès que le plus grand mal qui arrive, on fait pleurer notre ange gardien de façon extraordinaire le jour de notre premier péché mortel. Le jour du premier péché mortel, notre ange gardien doit pleurer parce que c'est la fin définitivement de la voie d'innocence. On ne peut plus aller au ciel par la voie d'innocence si j'ai le malheur d'avoir commis un seul péché. Un seul péché, mortel ou véniel d'ailleurs, la voie d'innocence est fermé définitivement pour moi. Il ne me reste plus qu'une autre voie que je dois utiliser, c'est la voie de pénitence, la voie de cessation du péché qui se rapporte, disent les pères, au Ninivite repentant. C'est la repentance qui efface l'offense. Donc soit je monte au ciel avec la sagesse de la voie d'innocence qui protège contre l'offense, c'est-à-dire je n'ai jamais offensé Dieu par un don extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ, soit j'ai commis des péchés, à ce moment-là, la voie d'innocence m'est fermée, j'ai plus qu'à utiliser la voie de repentance, c'est-à-dire la voie de pénitence. Repentance, pénitence, c'est un peu la même chose. La voie de repentance qui efface l'offense. Donc soit on efface les péchés qui ont été commis, soit on n'en commet aucun, ce qui est évidemment la voie la plus radicale, la plus facile pour aller au ciel. La plus directe pour aller au ciel. Alors, cette reine d'Éthiopie, donc là, c'est un texte de Saint Grégoire de Nice, vous voyez, je vous disais qu'il était de Saint Grégoire de Nice, je ne sais plus que c'était lui, Saint Grégoire de Nicée, dit que cette reine d'Éthiopie était de race noire. Et c'est elle qui apporta à Salomon l'or et les parfums. C'est la figure des gentils. Les gentils, c'est qui? C'est les non-juifs. Qui, longtemps plongés dans les ténèbres de l'ignorance, ouvrent les yeux à la lumière pendant que les juifs ferment les leurs, est purifié de toutes ses souillures dans les eaux du baptême et apporte au vrai Salomon, au vrai prince de la paix, l'hommage de ses richesses et de ses adorations. Donc, on peut aussi s'apparenter à ce texte qui est utilisé, qui représente la Sainte Vierge. Je suis noire, mais je suis belle. Je suis noire, mais je suis belle. C'est un texte qui est appliqué à la Sainte Vierge Marie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis noire parce que Je porte sur moi, en moi, la nature humaine, mais je suis belle parce que, bien qu'ayant une nature humaine qui est noire à cause du péché, moi je n'ai pas reçu le péché originel parce que je suis Immaculée Conception, et donc, malgré le fait que j'ai la nature humaine, je n'ai pas été sali par cette noirceur du péché parce que j'ai gardé la beauté de mon innocence. Et c'est la seule Très Sainte Vierge Marie et la seule créature, avec notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité, qui puisse dire une chose pareille. Il n'y a pas quelques deux créatures de Dieu qui ont l'Immaculée Conception, notre Sainte Vierge Marie en tant que Mère de Dieu, et notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité qui est créée, l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est créée comme son âme, l'âme et le corps, et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ sont des choses créées dans le temps, puisque l'âme, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ n'existaient pas avant le 25 mars, jour de l'Annonciation et l'acceptation dans le sein de notre Sainte Vierge Marie de la divinité qui est venue s'incarner, s'unir à l'humanité dans le sein de notre Sainte Vierge Marie. Alors, dans ces Ninivites qui font pénitence et dans cette reine du midi qui est amenée de si loin par le désir de la sagesse, ne voyons-nous pas la figure de l'Église? Donc cette reine de Saba, cette reine d'Éthiopie, cette reine du Sud, cette reine du Midi, tout ça sont des synonymes, représente l'Église catholique. L'Église catholique, de même que cette reine d'Éthiopie, attirée par la sagesse de Salomon, va revenir vers Salomon pour se faire instruire par lui, eh bien de la même façon, l'Église catholique, qui est représentée par cette reine de Saba, va venir au nouveau Salomon, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Salomon, le roi Salomon étant une image du roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Église se forme par deux dispositions, l'une qui nous fait renoncer au péché et l'autre qui nous apprend à ne plus pécher. C'est la pénitence qui nous fait renoncer au péché, la sagesse qui nous apprend à ne plus pécher. Rappelez-vous ce que je viens de vous expliquer, qu'il n'y a que deux voies pour aller au ciel, soit la voie d'innocence pour ceux qui n'ont jamais péché, soit la voie de pénitence pour ceux qui ont le malheur d'avoir commis une seule faute grave. Ce sont des passages très beau ici qu'on trouve chez les pères de l'Église. Ouais, avançons avec les versets 32 à 36 de Saint Luc au chapitre 11. Les Ninivites se lèveront lors du jugement contre cette génération. Et la condamneront, car ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas, et voici qu'il y a plus que Jonas ici. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le candélabre afin que ceux qui entrent voient la lumière. La lampe de votre corps, c'est votre œil. Si votre œil est simple, tout votre corps sera lumineux, mais s'il est mauvais, votre corps aussi sera ténébreux. Prenez donc garde que la lumière qui est en vous ne soit ténèbre. Si donc tout votre corps est éclairé, n'ayant aucune partie ténébreuse, il sera tout lumineux, vous serez éclairé comme une lampe brillante. Donc cette lumière représente les vertus de charité, les ténèbres représentent l'absence des vertus de charité. Donc la lumière représente la grâce sanctifiante, la ténèbre représente le péché qui détruit la grâce sanctifiante. Donc il allume le cierge, en vérité, celui qui remplit le vaisseau de notre nature avec le feu de sa divinité, et il ne veut pas cacher cette bougie aux croyants, ni la placer sous le boisseau pour la confiner aux limites étroites de la nation juive selon la mesure de la loi. Il place donc la lumière sur le candélabre, c'est-à-dire l'Église. Donc le candélabre qui reçoit la lumière et qui va présenter la lumière au monde, c'est l'Église catholique. Car Dieu a imprimé sur nos fronts la foi en son incarnation, afin que ceux qui ont la vraie foi, entrant dans l'Église, puissent voir clairement la lumière de la vérité. Donc le candélabre qui amène la vérité, c'est l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il nous demande de purifier, de nettoyer non seulement nos œuvres, mais aussi nos pensées et les intentions de notre cœur, car l'œil est la lumière du corps. Donc que personne ne place la foi, disent les pères, sous la loi, car la loi est tenue par certaines limites, alors que la grâce est sans limite. La loi obscurcit la grâce. La loi obscurcit, la grâce éclaircit. Donc ce candélabre qui tient le flambeau allumé, la bougie allumée, représente l'Église catholique. Il représente la grâce sanctifiante qui illumine notre âme si je suis en état de grâce. Alors, selon certains pères, cette lumière, cet œil de l'Église, c'est l'évêque. De même que le corps est bien dirigé, si l'œil le garde pur, mais se désagrège, il devient corrompu. De même, par rapport au prélat, par rapport à l'évêque, selon son état, l'Église souffrira le naufrage ou sera sauvée. On voit très bien ça aujourd'hui. Si le monde dans son immense majorité se damne. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'annonçait déjà en son temps, la voie large qui mène à la perdition. Bon, si la France, par exemple, et le monde même, est devenue une espèce de gigantesque poubelle, surtout valable en France, qui est la fille aînée de l'Église en principe, eh bien, les premiers responsables sont les prélats qui n'ont pas rempli leur devoir. Et c'est parce que depuis la mort, surtout du pape Pie XII, en 1958, les évêques ont abandonné la foi, les faux papes qui ont pris le pouvoir à Rome depuis 1958 ne gardent plus le dépôt de la foi, mais l'ont détruit. Les conséquences sont là, la perte des âmes. Hein. Donc, si les évêques sont fidèles, si les prêtres sont fidèles, l'Église sera sauvée. Mais si les prêtres sont infidèles, les évêques sont infidèles, encore plus valable évidemment pour la personne du pape, eh bien, les âmes se perdront. Donc, l'œil, figurativement, représente la raison. C'est le verset 34, « La langue de votre corps, c'est votre œil ». Donc, l'œil représente la raison, l'intelligence et surtout la bonne intention. Tout ça représenté par l'œil. Cet œil signifie notre intelligence qui doit recevoir la lumière d'en haut et la répandre dans l'âme tout entière, la répandre aussi dans notre vie. N'attendons donc pas que le péril soit extrême pour réveiller le Christ. Réveillons-le pour qu'il maintienne toujours notre foi en éveil. Surtout si on a l'impression que si notre Seigneur Jésus-Christ dort ou fait semblant de dormir au fond de la barque, les apôtres ont paniqué, « Seigneur, Seigneur, nous périssons !» Qu'est-ce qu'il faut faire? Vérifier que notre Seigneur est dans la barque. À partir du moment où notre Seigneur Jésus-Christ est dans la barque, même si les flots sont épouvantables, s'il y a des tempêtes épouvantables, des vagues très très hautes, même si l'eau passe par-dessus bord, notre Seigneur Jésus-Christ étant dans la barque, nous n'avons rien à craindre. Donc il faut que notre Seigneur soit toujours notre pilote. Appliquons-nous donc à lui tenir soumis tout ce qui est en nous. Appliquons-nous à faire ce que font les éléments à obéir au Seigneur. La mer l'écoute et vous seriez sourd à sa voix. Le vent se calme devant lui et vous laisseriez encore vos passions continuer leur rugissement. Donc cette tempête représente les passions qui se déconnectent de notre Seigneur Jésus-Christ. Les passions doivent être sous le contrôle de la volonté sous l'intelligence et l'intelligence sous le contrôle de la foi illuminée par la charité. Donc vous avez, si vous voulez, une espèce d'échelle. Dieu, la charité, qui est la présence de Dieu en nous, par la grâce sanctifiante, l'intelligence, la volonté, les passions, tout ça doit être soumis à notre Seigneur. Donc voilà, je vais arrêter là, parce que je vous garde déjà depuis plus d'une heure. La prochaine fois, nous commencerons le verset 37 de Saint-Luc au chapitre 11. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.